France Info.
France Info.
Et oui, la première raison en est simple, c'est que depuis le traité de Rome en 1957, l'Europe politique naissante a décidé de laisser de côté l'éducation, qui reste une prérogative des États membres et depuis, rien n'a changé.
Tout de même, Emmanuel, cela n'empêche pas quelques avancées.
Absolument. Alors d'abord, du côté de l'enseignement des langues vivantes, avec la généralisation progressive de l'enseignement des langues en primaire. Et puis, il existe au collège et au lycée des classes européennes. Elles accueillent environ 275 000 élèves. Vous y suivez, Agnès, un enseignement en langue renforcée, mais surtout, les cours de certaines disciplines sont enseignés en langue étrangère. Vous faites par exemple, des sciences en anglais ou de la géographie en espagnol. Cela permet de colorer le baccalauréat. Les programmes, eux, restent évidemment communs.
Et on n'a jamais essayé de faire converger la façon d'enseigner certaines choses,
hein. Alors, si, à commencer par l'histoire. Il y a même eu l'expérience d'un manuel d'histoire franco-allemand. Il a été réalisé, mais son usage est resté confidentiel. Explication parue en 2011 dans Le Monde, explication signée du chercheur Stefan Seidendorf. 80% des Français disent que c'est plutôt un livre allemand et vice-versa. Dans les deux pays, les enseignants ne sont pas préparés à utiliser un tel manuel. En Allemagne, l'important est de former des citoyens, d'inciter les élèves à poser des questions. En France, l'enseignement est basé sur la dissertation et sur l'organisation des connaissances. Seules les personnes, dit-il, déjà sensibilisées aux relations franco-allemandes savent que les deux approches ne s'opposent pas mais sont complémentaires. Fin de citation. Il y a aussi une autre expérience qui avait été menée. Des historiens avaient essayé d'interroger les élèves dans toute l'Europe pour comprendre ce qui, à leurs yeux, était commun dans l'histoire européenne. Et là, catastrophe, on avait découvert que finalement, les événements marquants pour tous les jeunes européens, eh bien, c'était les grandes batailles. On imagine qu'il était difficile d'organiser un manuel européen, plutôt favorable à la paix, à la citoyenneté européenne, en ne parlant que de ce qui avait opposé les pays européens dans l'histoire.
Effectivement, tout de même, quand on parle Europe, éducation, enseignement, tout de suite vient en tête Erasmus.
Absolument, et d'ailleurs, selon un récent sondage TNS Sofres, Erasmus est même la plus connue des réalisations européennes, derrière l'euro, derrière la politique agricole commune, et c'est une notoriété en grande partie due au succès du film L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Analyse de ce succès par Gérard Onesta, il a été vice-président écologiste du Parlement européen, il est cité dans La Croix. Erasmus correspond vraiment à l'idéal des pères fondateurs qui souhaitaient rapprocher les peuples. Il permet des échanges féconds dans tous les sens du terme. Certains soutiennent qu'il y aurait aujourd'hui 1 million de bébés Erasmus nés de l'union de personnes qui se sont rencontrées grâce à ce programme. Problème, ce programme, il demeure malgré tout marginal puisque seuls 2% d'une classe d'âge en bénéficie aujourd'hui.
L'Europe qui va quand même essayer de le relancer avec Erasmus+.
Absolument, et un budget de 14,7 milliards pour la période 2014-2020. Ça fait quand même 5 milliards de plus que pour la période précédente. Et l'objectif est de financer 4 millions de séjours. Je précise que ce Erasmus+ inclut les autres programmes liés à l'éducation, pas seulement pour les étudiants. Vous avez Comenius qui s'adresse aux élèves du secondaire, Leonardo pour les élèves de la formation professionnelle et même Grundtvig qui est un programme pour les adultes. Le but, eh bien, c'est également de permettre l'émergence de partenariats entre établissements d'enseignement supérieur, entreprises et collectivités. Tout cela s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie dite de Lisbonne. L'Europe s'était fixée dans la capitale portugaise en 2000 l'objectif de devenir leader de l'économie mondiale de la connaissance à l'horizon 2015. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais on tente de rebondir avec ce programme baptisé Horizon 2020. On dit aussi Horizon 2020, un programme qui prétend notamment, je cite, améliorer les niveaux d'éducation, à savoir dans tous les pays d'Europe, réduire le taux d'abandon scolaire, mais aussi accroître le nombre d'étudiants. Aucun objectif chiffré, malheureusement, n'accompagne ce projet. Ce que le site internet Culture Action Europe rappelle, les compétences en matière d'éducation et de politique sociale restent au niveau des États membres et parfois même des régions, comme en Allemagne, dans le domaine éducatif. Et puis en outre, les réalités éducatives et sociales varient fortement d'un pays à l'autre, si bien que certains gouvernements sont donc très peu enclins à adopter des objectifs communs qui pourraient être bien plus difficiles à atteindre pour certains pays que pour d'autres. Fin de citation.
Alors finalement, le fait que l'éducation reste en dehors des traités européens n'empêche pas les initiatives.
Voilà, mais c'est un peu vraiment le verre à moitié vide, à moitié plein. Tant qu'on ne rentre pas dans le dur, c'est-à-dire dans les programmes, on peut faire des choses, on peut s'occuper des langues, des jeunes, essayer de rapprocher les structures, mais on ne touche pas au cœur de la machine. Pour l'Europe, l'éducation reste vraiment une citadelle à prendre.